Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir deux passages de l'Écriture sainte. Et j'aimerais introduire notre réflexion qui concerne tout le monde. Voilà, on fait une généralité, mais c'est tout à fait normal. L'Église, elle est faite avec des nouveaux-nés spirituels, de ceux qui viennent de se convertir. Elle est faite avec des gens qui, quelque part, eh bien, on peut dire qu'ils sont dans l'âge mûr. Et puis il y a une autre dimension de frères et sœurs qui sont là depuis des décennies et qui quelque part ont certainement acquis une expérience et une grande foi. Alors je dirais que tout simplement l'Église elle est multigénérationnelle, tout simplement. Et ça c'est important de ne pas l'oublier, il ne faut pas l'oublier. Le texte ou les textes que j'aimerais que nous portions notre attention pour nous dire simplement que vous connaissez ce passage, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. D'accord ? On pourrait peut-être parler naturellement et bien à notre esprit. La conversion, la rencontre d'une âme avec Jésus. Et on a peut-être du mal à se figurer ce que peut être l'éclat de la joie dans le ciel pour quelqu'un qui se tourne vers Jésus. Le sacrifice de Jésus n'est pas vain. Et on en prendra toute la dimension de l'autre côté. Et puis, il y a ceux qui partent bien. Extraordinaire les conversions. Pour certains, mais même la simple conversion, elle est toujours, c'est toujours un miracle de Dieu, hein, de toute façon. Et puis, voilà que ils sont pris par l'esprit du fils prodigue. Allons voir ailleurs si l'herbe est plus verte. On peut le dire comme ça, hein. Et puis, l'histoire du fils prodigue, c'est une belle histoire. Parce que c'est l'histoire, eh bien, en quelque sorte, d'une fuite, mais c'est aussi la belle histoire d'un retour. Et ça, c'est beau. C'était certainement une des plus belles des paraboles de Jésus. On l'a appelée la perle des paraboles. Alors, on devine ce qu'a pu être l'aventure du fils prodigue, lorsqu'il nous est donné par quelques détails très, très sommaires, là où il a étalé, il a quitté quelque chose qui était véritablement une grâce de Dieu. Il est allé dans la boue et il est revenu à la maison. Ça, c'est beau aussi. Et puis, il y a ceux qui abandonnent en cours de route, bien qu'ils aient pu avoir une formidable conversion. C'est notre histoire, hein, que nous constatons lorsque nous voyons dans les églises comment ça se passe. Et nous voyons que, malheureusement, et c'est le thème, ils ne reviennent jamais. Le jamais, ça ne veut pas dire qu'au dernier moment, ils peuvent véritablement se tourner vers Dieu et véritablement demander pardon à Dieu. Parce que ça ne nous appartient pas de décréter « Celui-ci, il est perdu, celui-là, il est sauvé. » Alors, je voudrais titrer mon message ce matin sur les occasions ratées. Ouais, c'est un sujet, hein. J'ai eu l'occasion de donner dans plusieurs églises, mais c'est important, les occasions ratées. Et dans certains cas, ça peut-être nous faire réfléchir, peut-être plus que réfléchir, c'est les outrages à l'esprit de la grâce. Le fils prodigue n'est revenu. Il y a ceux qui restent dans la grâce toute leur vie et qui vont se développer. Et qui vont faire des fruits, et qui vont être serviteurs, qu'ils en soient conscients ou pas. Et Je crois que c'est l'apôtre Paul qui parle dans ses épîtres. Pour ce dernier cas, cette dernière situation d'un naufrage selon la foi, ou le naufrage dans la foi. Et ça, ça fait pleurer. Ça, c'est terrible lorsque nous sommes confrontés avec ceci. Je voudrais vous raconter simplement une anecdote. C'est pas de l'imagination, hein. Ce sont des réalités. Des réalités où, dans ce que je viens de vous dire, eh bien, est réuni tout cela. Nous avons connu, lorsque nous étions dans d'autres églises, dans le pasteur, des situations il y a longtemps, des situations où nous avons vu des personnes qui se sont converties surnaturellement au Seigneur, merveilleusement à Dieu, extraordinaire. Ils étaient dans la boue. Ils étaient dans la misère, sans un sou, façon de parler, hein, sans rien du tout, les poches vides, une vie vide, et se convertir à la faveur d'une rencontre. Ils ont cru à ce qui leur a été dit. Ils ont marché avec le Seigneur. Ils se sont fait baptiser. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Dieu leur a ouvert les portes d'une manière extraordinaire pour que ce qu'ils n'avaient pas au départ lorsqu'ils étaient en dehors de l'espérance chrétienne, Dieu leur a donné tout, mais vraiment tout. Ce soit une famille, que ce soit des enfants, que ce soit du travail, que ce soit des situations avec une ascension, que ce soit situation économique, que ce soit des frères et des sœurs, des amis en grand nombre, et à un moment donné, ils ont fait l'expérience, ils font l'expérience du fils prodigue. Ils perdent tout. Tout va être complètement dissipé. Il ne restera rien de rien. C'est terrible, hein ? Il y a de quoi pleurer, mes frères et sœurs. Alors, c'est quelque chose tout ça. Il y a des gens qui vont rester toute leur vie fidèles, le Seigneur et leur Dieu suprême. Et ils vont grandir, ils vont se développer, Dieu va les bénir et les bénir et les bénir jusqu'au ciel. Et puis il y en a d'autres qui reçoivent autant, qui reçoivent peut-être quelquefois plus, parce qu'il y a une marque d'extraordinaire et de surnaturel. Et là, ils vont tout balancer d'un revers de main. Et c'est quelque chose, et à la différence peut-être du fils prodigue, on se demande aujourd'hui s'ils reviendront. S'ils reviendront. Alors, moi je voudrais évoquer deux textes ce matin, on va les lire. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 2, ça sera le pivot de notre réflexion. Le pivot de notre méditation ce matin. Écoutez bien, c'est Paul qui l'écrit. Il l'écrit aux Corinthiens qui étaient quand même assez turbulents, hein. Faut quand même le savoir et s'en souvenir. Et il écrira ceci, il dira ceci, puisque nous travaillons, chapitre 6, verset 2, puisque nous travaillons avec Dieu, nous avons été créés en Jésus-Christ, c'est moi qui l'ajoute, hein. Nous vous exhortons, nous vous supplions à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est pas seulement la foi, c'est pas seulement les dons de Dieu, mais la grâce de Dieu qui enveloppe toute chose. Et il est dit ceci, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Eh oui, on est passé par là, hein. Et heureux êtes-vous, parce que vous avez gardé la foi. Ça, c'est bien. Maintenant, tout le monde ne l'a pas fait, ça. Ou voulu le faire. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Il y a un temps pour venir au Seigneur, il y a le temps de notre vie pour rester fidèle au Seigneur, et il y a un temps peut-être pour s'égarer. Eh, ça fait partie de la règle du jeu, malheureusement. Pas pour tout le monde, hein. Mais peut-être pour des inattentifs. Pour ceux qui, quelque part, prennent un peu les choses à la légère. Ou surtout ceux qui, quelque part, sont sortis du monde et qui, quelque part, n'ont jamais fini de lorgner vers le monde. Parce que leur cœur n'a pas été complètement nettoyé ou purifié. Alors, il y a un temps où Dieu nous a exaucés merveilleusement. Il y a un temps où nous avons besoin d'être secourus, si nous voulons bien écouter son appel tout à nouveau. Parce que ceux qui ont été baptisés, ceux qui ont déclaré, je parle de ceux qui sont sincères, vraiment, hein, ceux qui ont été trompés par le diable, alors à ce moment-là, ils peuvent être secourus comme le fils prodigue, tout à nouveau. Et tout repart. Ah, certainement avec des blessures. Invalidé. Avec une culpabilité qui ne va pas les lâcher, même si Dieu leur a pardonné complètement et totalement. Alors ça, c'est notre premier verset de référence. On le garde en mémoire parce que je vais y revenir. Il est le pivot de notre message. Et puis, il y a naturellement, ça vous le savez, vous le connaissez parce que c'est d'une grande évidence, c'est dans Luc chapitre 19, où il est dit ceci, au verset 41 et 44, je le relis, nous le connaissons. Et comme Jésus approchait de la ville, il, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, jour d'un appel ou jour d'un rappel de Dieu, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, tu les as connues hier, mais tu les as abandonnées. À ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux comme un voile qui serait tombé. Le voile a été enlevé une première fois, mais il est revenu. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. C'est une référence à l'invasion d'Israël par les légions romaines en l'an 70. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils te laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Occasion ratée. Un des pires ennemis, c'est l'indifférence, mais aussi la négligence. Combien de paraboles nous avons dans la bouche de Jésus qui enseigne son peuple, ses auditeurs, où il est question de veiller à ne pas être des indifférents ou des négligents. On en a plein, naturellement, de ces paroles de Jésus. Notre premier texte, donc, de Paul, invite à ne pas être des auditeurs ou des lecteurs, ce que nous sommes aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, qui fermeraient leurs oreilles et leurs yeux, ainsi que leur cœur, parce que tout vient de là, du cœur, par désintérêt, par désintéressement, de dire, oh ben, ça ne m'intéresse plus maintenant. Je suis fatigué de ça. Je suis fatigué de... J'ai choisi, c'est vrai, à un moment donné, ça m'a réjoui, j'ai eu un grand plaisir, un grand bonheur. J'ai vu comment Dieu, les portes du ciel se sont ouvertes sur ma vie, moi qui n'avais rien, moi qui étais véritablement dans un grand péril, sans espoir, sans espérance, en errant dans ce monde... Et de dire, eh bien, passons à autre chose. Oui. Vous savez qu'il y a une foule, et je voudrais le rappeler à dessein, il y a une foule de choses que nous entreprenons dans notre vie, dans notre existence, et dont le résultat n'est que futilité. Inutilité, ça ne sert pas à grand-chose, sinon une satisfaction personnelle. Nourrir notre moi et peut-être parfois, eh bien là, nos convoitises, voire se solder par la médiocrité. Parce que lorsqu'on en a fait le tour, on se dit, bah, c'est bien comme le reste. Hein. Ouais. J'ai voulu retourner un petit peu à ceci et cela, et puis je m'aperçois que bah, ça ne m'a pas apporté le contentement qui m'a un petit peu émoustillé à un moment donné. Ouais. Mais aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose. Et on s'aperçoit qu'on revient toujours avec... comme une forme de lèpre, vous savez, hein, la lèpre, on ne connaît pas ça par ici, hein, naturellement, mais ça laisse des petites taches, un petit peu de tous les côtés. Les autres s'en aperçoivent peut-être pas, mais nous, nous le savons, en tous les cas, au fond de notre cœur. La vanité pour un chrétien, écoutez bien, parce que c'est un principe, c'est tout ce qui reste en dehors du plan salvateur et la volonté de Dieu connue, que nous avons reconnue, et les actions diverses de la vie, hors la perspective d'une autre dimension que celle qui est le nec plus ultra dans le désir et le cœur de Dieu, la dimension spirituelle. On est sauvé dans un monde qui est perdu. Nous sommes des enfants de Dieu avec tout ce que cela peut comporter de grâce, de promesse, de réalisation finalement d'une vie qui mérite le mot de vie ou existence, qui mérite le mot d'existence, la signification du mot existence. Mais tout ce qui véritablement sort du principe que on ne vit pas seulement pour les choses de cette terre, mais on vit déjà en préparation pour l'autre côté. C'est pas vrai ? Oui, oui. Et quand un chrétien commence à chavirer, quand il commence à prendre un petit peu, ça commence à tanguer ou des choses comme ça, et que quelque part, on met à égal ce que nous étions auparavant et ce que nous sommes devenus, et que quelque part, eh bien, finalement, les pressions où nous avons envie de retourner en arrière, alors à ce moment-là, eh bien, ça fait chavirer le bateau. Ouais. C'est un naufrage dans la foi, tout simplement, parce que nous avons perdu la vision et la destination que Dieu nous a donnée. C'est une destination spirituelle. C'est pour ça que le Seigneur nous donne la réponse à notre réponse que Dieu nous donne quand il nous appelle, le correspondant, le corollaire en quelque sorte, eh bien c'est justement la nouvelle naissance, la vie spirituelle. Et la vie spirituelle doit véritablement dominer sur notre vie de l'âme, sur nos sentiments, sur notre intelligence, sur notre cœur, sur notre chair aussi, sur notre corps, pour que nous donnions toujours la priorité que nous exigeons de nous-mêmes, c'est la vie spirituelle. Autrement, eh bien, ça balance dans un coin, ou dans un sens ou dans un autre. Parce que si ce n'est pas dans ce que le Seigneur nous a montré de cette dimension noble et éternelle, la vie spirituelle, alors à ce moment-là, tout ça, tout ce que nous avons pu faire, que j'ai signalé comme futilité, inutilité, médiocrité et tout ce que vous voulez, eh bien, tout cela, nous voyons que c'est voué à disparaître. Qu'est-ce que nous allons emporter ? Qu'est-ce que nous allons emmener lorsque nous allons partir ? Eh oui, il ne restera pas grand-chose. D'ailleurs, l'évocation de Paul dans Corinthiens, chapitre 1 aux Corinthiens, quand il dira, mais avec quoi vous construisez ? Avec du bois, avec du chaume, avec quoi vous construisez ? Mais si c'est avec des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, alors à ce moment-là, ça va résister au feu. Naturellement, ça va résister au feu. Et c'est voué à mourir avec nous, il ne restera rien. Quand on pense que les grands hommes de notre monde et de tous les temps ont voulu se faire un nom sur la terre, comme à Babel, et qu'aujourd'hui, on sait très bien que lorsque l'on nie la finalité de ce monde qui est en flamme, qui est en train de brûler. Et attendez, on n'a pas tout vu, hein. C'est pas seulement le feu comme nous le connaissons. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui restera ? Oh, il y aura peut-être des beaux palais derrière nous. Il y aura peut-être des grandes œuvres littéraires, musicales, tout ce que vous voudrez. Il ne restera rien du tout, mes frères et sœurs. Parce que je peux vous dire qu'il n'y a rien de comparable entre ce qui se passe sur la terre et de l'autre côté. Et ça se prépare. Alors voilà, tout ça pour cette présentation. Parce que Dieu annonce une bonne nouvelle. On ne peut pas dire autre chose. Capable de changer la destination de l'existence des hommes. Et c'est à cela qu'il nous a appelés dès le départ. Quand nous nous sommes convertis les uns et les autres, eh bien cette bonne nouvelle nous a dit, mais voilà, moi je vous offre une bénédiction sur la terre, mais je vous offre l'éternité de l'autre côté, dans un bonheur ineffable. Et quelqu'un a payé à notre place. Dieu annonce qu'il réserve pour chacun le bien suprême, où il propose de le rencontrer pour nous bénir et nous sauver. Écoutez, je le relis. Puisque nous travaillons avec Dieu, puisque nous avons répondu à son appel, parce que nous nous sommes convertis à Jésus-Christ, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Vous avez reçu la grâce de Dieu. Ne l'abandonnez pas. Ne retournez pas à la loi, entre guillemets, hein, parce que là, vous n'êtes pas sortis. Si vous voulez plaire à Dieu, Avec vos mérites, vous n'y arriverez jamais. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la grâce. C'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous. Alors, au temps favorable, je t'ai exaucé. Je vais t'exaucer encore. Au jour du salut, je te secourrai. Je t'ai secouru. Et maintenant, voici le temps favorable. Ce que nous entendons ce matin, peut-être que c'est un appel pour certains. Et puis moi, je pense que ça peut être aussi un appel pour tous ceux qui entendront ce message via l'informatique. Parce que là aussi, il y a quelque chose qui se passe. Moi, quand je proche devant un auditoire, celui-ci, mais je ne veux pas en parler, je ne veux pas m'étendre là-dessus, parce que moi, j'y suis pour rien, alors ça, je prêche. Mais c'est des dizaines et des centaines de personnes qui entendent le message, le même que vous entendez maintenant. Alors, on ne peut pas mépriser, hein. Les temps sont aujourd'hui à ces moyens modernes. Alors, au lieu de laisser des gens des bavards et laisser des gens qui racontent n'importe quoi et des fausses doctrines, nous voulons prendre notre place pour dire « Jésus-Christ est vivant et croyez en lui ». Alors bien sûr, peut-être vous direz « on ne les connaît pas, mais on n'a pas besoin de les connaître, pourvu qu'ils soient reconnus par Dieu et qu'eux reconnaissent le Seigneur ». Ça, c'est important. C'est ma philosophie. Bon. Le second récit que nous avons lu tout à l'heure, saisit l'épisode biblique, c'est authentique, c'est évangélique, on ne peut pas dire le contraire, où Jésus fait son entrée triomphale et enthousiasme à Jérusalem. Et vous remarquerez qu'après une attente de plusieurs siècles, avec des prophètes, avec une foi qui était celle du judaïsme, la foi judaïque, après tout ce temps qui a passé, nous pouvons dire que quand Jésus s'est présenté à Jérusalem, l'accueil a été très superficiel. On crie pendant quelques heures, et puis après on crie autre chose. Vous connaissez l'histoire, je ne peux pas rentrer dans les détails. Et Jésus sait pertinemment que ceux qui l'accueillent, aujourd'hui, demain, vont le trahir. Tout abandon de Jésus et de la foi qui vient à la personne de Jésus, pas les religions chrétiennes ou pseudo-chrétiennes, mais la personne de Christ qui a donné sa vie, le Rédempteur, alors à ce moment-là, ils vont le trahir. Il y a un paradoxe à relever, c'est que les contemporains de Jésus prétendaient attendre leur Messie. C'est ce que je disais il y a un instant. Toutefois, leur attitude était celle de l'hostilité. Ouais, au fond, il y avait une hostilité, il y avait quelque chose qui les gênait chez Jésus. Il y avait quelque chose qui les dérangeait par rapport, en comparaison peut-être avec leur religion, avec leur tradition, avec leur rite, avec toutes sortes de choses. Ça restait au fond des cœurs. Et nous voyons que la ville entière, Jésus leur dit, puisque vous n'avez pas observez, puisque vous n'avez pas entendu, puisque vous n'avez pas voulu retenir ce que je vous ai annoncé, et annoncé même très longtemps à l'avance, il va leur dire, mais cette ville-là qui est votre gloire, le temple de Jérusalem qui est votre gloire, parce que tout ça ce sont des pierres, de la poussière, sera investi un jour des armées, des soldats. L'Empire, votre empire, pour l'instant, tout disparaîtra. Et tout cela parce qu'ils ont refusé et parce que leur pensée était calculée. Alors Jésus va pleurer sur Jérusalem en disant « Mais moi, je suis venu. Je viens pour leur donner la rédemption, le pardon, le salut et les sortir de leur carcan, de leur fossé, de leurs ornières, du légalisme, de leur tradition. » Leur méticulosité dans ceci, dans cela, etc., etc. Alors Jésus, il sent les larmes venir dans sa vie, dans son cœur. Il se dit, mais c'est terrible une chose pareille. Je leur donne tout, ils n'ont pas compris le message. Et pourtant, ils continuent à invoquer Dieu. Ils vont au temple, ils adorent, etc., etc. Quelle vaine bavardage, ou quelle vaine prière multipliée. Alors Jésus va repousser cette sinistre perspective et il va leur dire en vérité, mais vous verrez ce qui va se passer. Non pas parce que Dieu vous punit, mais parce que vous avez, vous, voulu être puni. Par refus de croire et refus d'obéissance. Et il dira, mais ses ennemis, ses armées ennemies écraseront la ville, et il ne restera pas pierre sur pierre. Même le temple de Jérusalem sera renversé. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le Seigneur nous visite tous les jours, dans des choses qui sont quotidiennes. Mais quelquefois dans notre vie, Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers sa parole, il nous parle à travers une prédication, il nous parle à travers les dons spirituels, dans l'inspiration, les dons spirituels ou les indications que nous donne le Saint-Esprit silencieusement au fond de notre cœur. Et là, nous voyons que Jésus dira à Israël, « Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait ?» Fort heureusement pour le fils prodigue, quand il était au fond de sa boue, il a été visité à ce moment-là, le Père, dans l'image. Eh bien, il n'était pas resté sans prier pour son fils qu'il n'avait pas vu peut-être depuis des mois et des années. Et je crois que le Père, le vrai, celui qui est de l'autre côté, eh bien, est redescendu pour voir le fils prodigue en disant, mais voilà, par une réflexion intérieure. Oui, je me disais, et il disait lui-même, eh bien, je retournerai chez mon Père, je lui demanderai pardon, je vais reprendre une vie nouvelle. Mais quelquefois, lorsque nous avons ces sentiments d'inspiration qui nous sont donnés, mais mettons-les en pratique, prenons-les au sérieux. C'est surtout ça, en disant, bon, on verra ça plus tard. Non, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ceci illustre que tôt ou tard, l'homme incrédule, il y a deux choses, hein, la crédulité et l'incrédulité. Dieu considère l'incrédulité comme le plus grand de tous les péchés avec l'orgueil. Alors, l'homme incrédule aura regretté d'avoir négligé l'occasion de rencontrer et d'accueillir celui qui se présente comme le Messie, je parle pour Israël, pour le Sauveur, pour tous les hommes que nous sommes, le Seigneur. Et vous savez, dans le livre du prophète Amos, petit livre, mais il y a une phrase, il y a une expression dans la phrase, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et ça, c'est pas seulement pour les gens qui sont dans la rue, les gens que nous ne connaissons pas, les gens que l'on appelle, d'une manière peut-être à tort, mais les gens du monde, non. Mais il peut nous parler aussi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu et mets en œuvre ce qui est nécessaire. Parce que le Seigneur te demande de revenir. Et si tu reviens, tu vas voir. Tu as perdu ta paix. Tu as perdu ta joie. Tu n'as que peut-être un fond semblant de chrétien, mais moi, je peux te redonner une plénitude de vie. Parce que la vie, elle vient du Saint-Esprit, hein. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans toute vie, et vous le savez aussi bien que moi, parce que nous partageons, il existe un courant qui est propice pour nous conduire vers Dieu, comme il existe, et nous sommes bien placés ici à Saint-Nazaire, sur la côte, comme il existe de même des marées favorables pour faire pénétrer les grands navires, de gros tonnage, et bien dans certains ports, parce que faut un pilote. Vous savez, nous, on a des bateaux de pilotes ici, ils montent, ils vont là, finalement, eh bien, en rade, et puis ils conduisent, parce que les pilotes de ces gros bateaux sur la mer, ils ne sont pas suffisamment expérimentés pour rentrer dans certains ports. Alors ils vont les chercher, et ils les rentrent, et puis après, ils font ce qu'ils ont à faire, naturellement. Et il y a des marées favorables. Il y a des temps où les bateaux passent et les bateaux ne passent pas. Hein, ça dépend du chenal, naturellement. Enfin, ça dépend de toutes sortes de choses. Il est important de se laisser porter, de se laisser guider par ces flux, aux rendez-vous qui peuvent bouleverser une existence, parce que nous avons été négligents, parce que nous avons refusé, comme Israël, parce que nous avons été incrédules, parce que nous avons ressenti des sentiments, et ça c'est au niveau sentimental, l'âme, parce que nous avons ressenti une aversion, nous aimons pas, il y a des choses qui nous plaisent et des choses qui nous plaisent pas. Et on va donner peut-être davantage de crédit à ce qui ne nous plaît pas en disant « je fais ce que je veux ». Voilà, je fais comme je veux. Alors on peut laisser passer l'occasion, ouais, de ces amis dont je vous parlais au départ. Moi, je peux vous dire, en tant que suivant de ces gens et observateur de ce que était leur descente, c'est qu'ils ont laissé passer des occasions. Ils n'ont pas vu que Dieu les a visités à un moment donné. Alors qu'il y avait peut-être des croisements, des carrefours. Et là, ils se sont dit, non, je m'en sortirai toujours. C'est l'homme naturel qui prend le dessus. Mais on n'est rien, mes frères et sœurs. Si on ne laisse pas le Saint-Esprit faire les choses, Jésus le dira d'ailleurs dans un message qu'on a vu il y a très très peu de temps. Hein. Il dira mais sans moi vous ne pouvez rien faire. Et c'est bien vrai. Mais l'homme orgueilleux se dit, mais moi je pourrais toujours m'en débrouiller avec mon expérience chrétienne, avec ma connaissance de la parole de Dieu, avec ma piété, voilà, bon, ça se voit peut-être chez les autres, mais Dieu voit le fond de notre cœur, hein, quoi qu'il en soit. C'est encore autre chose. Alors on laisse passer les occasions et on risque fort de ne plus avoir de nouvelles opportunités, parce que le temps est passé. Pour Israël, quand le Messie est arrivé à Jérusalem et qu'il a pleuré en voyant le désastre spirituel. Alors, religieux, il n'y avait pas de problème. Hein. Ils étaient en pointe. Hein. La religion, voilà, la pseudo-religion juive. Mais, à un moment donné, c'est passé. Après, il y a eu naturellement, eh bien, les événements politiques qui ont rasé Jérusalem. Et quand la mer se retire à ce moment-là, quand Dieu se retire, quand je parle de la mer, M-E-R, hein, mais le Père, quand il se retire, non pas pour nous châtier et nous abandonner à notre sort, mais pour nous dire, mais tu n'écoutes pas, tu ne veux pas entendre. Je t'ai parlé combien de fois? Je t'ai parlé à ton cœur. Mais ça, c'était la rengaine que nous trouvons dans l'Ancien Testament, quand Dieu dit, mais je vous ai envoyé dès le matin les prophètes, pour que vous puissiez entendre mon message et attendre votre Messie qui va venir, il va venir. Mais il s'était perdu dans toutes sortes de considérations et de routines. Alors quand la mer se retire, alors à ce moment-là, le temps s'enfuit, nous sommes emportés, il est primordial de discerner la nature de l'invitation que Dieu nous a donnée et de la visitation que Dieu nous a donnée. Dieu veut nous visiter. Peut-être ceux qui marchent un petit peu sur le bas-côté, ceux qui se disent, bon, bah, ça me suffit, hein, moi pour moi c'est bon. Vous savez, on a besoin d'entretenir notre vie spirituelle tous les jours, mes frères et sœurs. Baptiser du Saint-Esprit, c'est facile. On peut toujours parler en langue, mais je ne sais pas quoi dire. Bah, priez en langue. Alors à ce moment-là, vous allez vous remplir de paroles qui viendront et vous pourrez prier avec votre intelligence la prière que Dieu entend. Oui, si nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, il nous est dit que le Consolateur nous a été donné, l'Esprit-Saint, et lui, il porte parfaitement eh bien, nos sentiments, nos aspirations dans notre cœur. Et c'est là, justement, où nous pouvons faire des expériences. Qui ne fait plus d'expériences? C'est là où il faut peut-être réfléchir. Qui ne fait plus d'expériences? Je ne veux pas dire que l'expérience est supérieure à tout le reste, mais l'expérience nous fait vivre. Elle nous fait vivre avec Dieu. Et elle nous permet de le remercier, de le bénir. Elle nous permet de l'adorer. Et si nous savons voir les choses, mais c'est tous les jours qu'on peut remercier le Seigneur. Tous les jours. Il fait des choses extraordinaires, le Seigneur. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ça, moi, c'est un verset qui me trotte dans la tête en ce moment. Reconnais-le dans toutes tes voies, même les choses les plus insignifiantes. Mais Dieu est capable de nous faire voir des choses formidables. Parce qu'il y a un moment propice. Et peut-être ce que vous entendez aujourd'hui, c'est un moment propice. Moi, je ne le sais pas. Moi, j'ai eu à cœur. Ça fait 25 ans que je prêche ce message. Hein, c'est... Voilà. Donc... Mais une chose qui est certaine, c'est que ça, c'est important. Parce que bientôt, il sera peut-être trop tard. Il y a une autre histoire dans la Bible. Mais je ne vais pas la commenter avec le texte, parce que, bon, vous la connaissez bien. Elle est familière à chacun d'entre nous et qui évoque ce qu'il peut y avoir de tragique lorsque les occasions providentielles, le mot providentiel est quelque chose qui est vraiment, moi, spécifique à Dieu. Ouais. Circonstances, toutes sortes d'événements qui peuvent arriver, qui sont vraiment là, eh bien, sous la conduite de Dieu. Les occasions providentielles ne sont pas saisies à temps. Et nous avons justement ce fameux exemple dans l'Ancien Testament, vous allez le reconnaître, c'est lorsqu'Israël sort d'Égypte avec des miracles extraordinaires, les 10 plaies, le passage de la mer Rouge, avec derrière les armées surpuissantes de Pharaon qui courent derrière. Hein. Et leurs intentions, c'est certainement pas de faire du bien aux Juifs qui sont en train de fuir. À travers la marche dans le désert, la manne, l'eau qui jaillit du rocher, toutes sortes de choses, mais ce sont des bénédictions qui ne viennent pas d'en bas, mais qui viennent d'en haut, ça. Providentielles. Alors Israël sort d'Égypte avec des miracles, du surnaturel. Le peuple est confronté à un choix crucial quand il arrive à la frontière de Canaan. Ils ont fait déjà un petit séjour de quelques années dans le désert. Hein. Ils ont appris des choses normalement. C'était une école de foi, le désert. C'était pas pour les punir, mais c'était tout simplement pour leur montrer que vivre par la chair ou vivre par la foi, c'est deux choses différentes. Alors à ce moment-là, quand ils vont arriver aux frontières d'Israël, ça fait 40 ans déjà qu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu délègue deux espions, enfin deux personnalités que nous connaissons, pour explorer le pays de la promesse. Il les envoya au nom de tout le peuple. Vous allez aller au nord, au sud, à l'orient, à l'occident, et vous allez regarder, et vous allez voir quel est ce pays où coule le lait et le miel, parce qu'il s'appelle comme ça maintenant, Canaan. Il s'appelle lait, où coule le lait et le miel, parce qu'il est réservé au peuple de Dieu. Donc, il délègue ces gens. Ils reviennent de cette exploitation, je crois qu'ils ont fait pendant 40 jours, si ma mémoire est fidèle, mais ça n'a pas d'importance. Et ils vont faire un rapport d'exploration. Alors, ils vont dire au départ, ces deux-là, Caleb et Josué, hein, d'accord ? Ils vont envoyer 10 espions, je crois, hein, c'est ça, 10, et il y en a deux, Caleb et Josué. Ils vont dire, c'est excellent, mais Dieu est en train de nous bénir au-delà de ce que nous avons vraiment, eh bien, déjà vécu. Déjà dans le désert. Et c'était fait justement pour leur faire oublier leur misère et leur servitude pendant 430 ans en Égypte. Voilà. Ils sont venus enthousiasmés. Mais, et ça c'est le mais de nos vies. C'est le mais d'un chrétien qui est insatisfait, qui n'est jamais finalement, eh bien là, tout à fait stable. Mais il va y avoir des craintes, il va y avoir des doutes. Et à ce moment-là, en entendant les 8 autres qui sont négatifs, 2 sont positifs, j'ai donné les noms, il y en a 8 qui vont dire « Ah, mais c'est pas possible, on n'y arrivera pas ». Eh bien, c'est justement là le problème. Qu'est-ce que ça s'appelle comment ? Ça s'appelle de l'incrédulité. Confession d'un témoignage, c'est excellent, c'est merveilleux, c'est une bénédiction. Et les autres vont dire « Ben non, non, on peut pas y aller. Nous avons vu des géants et nous sommes comme des sauterelles ». Eh oui. Alors, il va y avoir des murmures, il va y avoir des révoltes, et Josué et Caleb ils vont tenter de rassurer le peuple d'Israël, ils encouragent à mettre toute leur confiance en Dieu. Mais avec Dieu, nous ferons des espoirs, nous dit David, n'est-ce pas ? Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Là où il y a une frontière, là où il y a une mer rouge, là où il y a peut-être une maladie, où on vous a dit que c'était impossible de soigner. On ne peut pas franchir. Eh bien, Dieu nous dit, attendez, vous pouvez pas franchir la mer rouge. Vous pouvez pas traverser le désert, vous pouvez pas rentrer en Canaan. Mais moi, je veux vous dire qu'avec ton cancer, ou avec toutes sortes de tes maladies, de tes problèmes familiaux, de tes problèmes conjugaux, moi, je suis capable de te faire passer. Fais-moi confiance. Et dans ta vie qui tourne en rond, où tu n'es pas bien, où tu es de moins en moins bien, où tu te renfermes sur toi-même, tu es en train de cultiver ton moi, le Seigneur est capable de te dire, mais moi je suis capable de te transformer et de te retenir et de te redonner la joie et le bonheur de tes premiers jours quand tu m'as rencontré. Ouais, le Seigneur est capable. Parce que Dieu, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Je voudrais vous vacciner, mes frères et sœurs. Bientôt, la vaccination va recommencer. Hein. Ah non, oui, attendez. Hein. Oui, mais on ne veut pas être contaminé par ceux qui ne veulent pas. Ouais. En tous les cas, une chose qui est certaine, c'est que nous avons vraiment besoin d'avoir ce vaccin préventif, hein, pour ne pas tomber dans l'incrédulité et nous renforcer en nous-mêmes en disant « Non, je ne veux pas ». Alors là, on ne veut pas. D'accord, le Seigneur va en prendre compte. Mais le problème, c'est que vous serez livré à vous-même à un moment ou à un autre. Tu n'as pas connu le temps où tu étais visite. Eh oui, c'est l'histoire de la vie. Alors, ils vont essayer, ces deux-là, positifs, Caleb et Josué, d'encourager, de rassurer le peuple, à mettre leur confiance en Dieu, je l'ai dit il y a un instant, et pourtant personne ne veut les écouter. Et qu'est-ce que va faire Dieu ? Qu'est-ce que va faire Dieu ? Allez maintenant, demi-tour droite, on repart en arrière. ils vont retourner comme ils aspiraient tellement. Ils avaient tellement envie de revivre l'esclavage, de revivre la servitude, de revivre le fouet, de revivre des conditions terribles. Il va leur dire, maintenant vous retournez en arrière. Ils vont pas retourner en Égypte, ça c'est sûr. Mais ils vont tourner en rond dans le désert. Et vous savez que dans le désert, il fait chaud. Hein. Il fait froid la nuit, mais il fait chaud aussi. Et pendant 38 ans, ils vont tourner en rond parce qu'ils n'ont pas écouté le jour où ils ont été visités. Faisons attention à tout ça, mes frères et sœurs, c'est important. Et si la parole nous est donnée, c'est parce qu'il y a probablement des raisons. Intervention directe de Dieu qui va menacer le peuple, eh bien, de périr dans le désert. D'ailleurs, toute la génération qui ont contesté au moment de la mer Rouge, eh bien, ceux qui sont sortis d'Égypte, ils ne verront pas le pays de Canaan. Ça sera que les jeunes. Ça sera peut-être cette génération nouvelle, peut-être plus ouverte, plus aguerrie pour aller à l'aventure. Vous savez, quelquefois, quand on vieillit, on n'aime pas trop l'aventure. Hein. J'ai mon petit fauteuil, j'ai ma petite maison, j'ai ceci et cela. Et de leur dire, écoute, hein, tu sais pas que tu es sur un siège éjectable, comme dans les avions. Eh oui, enfin, c'est quelque chose. Hein. Alors, il va y avoir l'intercession de Moïse à ce moment-là. Et Dieu décide de faire retourner les Hébreux dans le désert. Je l'ai dit, ça va durer 38 ans. Et tous les incrédules vont mourir, parce que c'est l'incrédulité qui tue. Le monde qui est autour de nous est en train de mourir par incrédulité. On vous dira, mais ils ont leur religion. Mais c'est pas la religion qui sauve. C'est pas les veines redites. C'est pas les traditions. C'est pas ce qui nous pousse quelquefois, ce qui pousse le monde à adorer, à prier des idoles qui ne sont que des idoles de pierre ou d'autre chose, mais ça n'a aucune valeur. C'est notre relation avec Jésus-Christ, notre intimité avec Jésus-Christ. Lui en moi et moi en lui. Le temple de Dieu, c'est ça, hein. Nous sommes le temple de Dieu, en quelque sorte. Alors, convaincu de sa foi, une grande désolation va s'en suivre dans le peuple d'Israël. Et la suite est insensée. Parce que quelqu'un qui a perdu, finalement, qui a sorti son pied de l'étrier, il va tomber du cheval à un moment donné. Et comme dans tous les cas, comme on l'a rencontré par ceux que j'ai illustrés au début, comme on le voit dans d'autres situations, eh bien, vous savez ce qui s'est passé, c'est la suite est tragique comme Israël à Jérusalem, hein, c'est pareil. Parce qu'à ce moment-là, quand on sent qu'on n'est plus dans la note, on veut essayer de compenser le mal par le bien, et Israël va projeter de rentrer de toute force en Canaan. Dieu leur a dit, vous ne rentrerez pas. Et Israël dit, bon, on va rentrer quand même. Alors qu'ils ne voulaient pas y rentrer quand Dieu leur a dit rentrer, eh bien maintenant, ils vont vouloir y rentrer tout simplement, eh bien de force. Et c'est une désobéissance à ce moment-là, une obstination coupable. Et c'est terrible, hein. Ils vont vouloir rentrer quand même. Et Dieu leur a dit, non, vous allez de l'autre côté maintenant. Moi, je dis que vous n'étiez pas prêts, ben, vous n'êtes pas prêts, vous allez vous préparer, vous allez être à l'école de la foi, et maintenant, vous allez voir, vous allez apprendre, vous allez grandir, mais vous allez être disciplinés. Et Dieu veut nous discipliner quelque part. Et quand Dieu nous discipline, c'est pas une punition, c'est pas une condamnation, c'est pas un jugement, c'est une école. Et on n'aime pas trop l'école. Israël est taillé en pièces, parce qu'il va vouloir rentrer dans le pays de Canaan. Et là, à ce moment-là, les peuples canaïens qui sont là, ils vont pas les laisser faire. Hein. Il va être taillé en pièces, et c'est un désastre. C'est une tragédie qui explique, finalement, eh bien, leur attitude. Parce que quand on considère les choses et qu'on les met en parallèle, on s'aperçoit que Israël, qui était en faute, redoutait de conquérir le pays avec Dieu, parce que c'était le moment favorable, et c'est bien là où on est dit, puisque nous est dit, c'est le moment favorable, c'est là où je t'ai exaucé, mais témérairement, comme s'il y avait quelque chose à rattraper, une mauvaise conversion, une mauvaise repentance, Israël pénètre sans l'Éternel. Et là, il y a de la casse. Parce que si nous voulons marcher sans Dieu, avec l'illusion que nous sommes encore avec Dieu et que Dieu est encore avec nous, alors que nous sommes en désobéissance, qu'est-ce que ça peut donner ? Rien du tout. Nous allons retourner dans notre chemin d'errance dans le désert. Parce que ce n'était plus le moment. Et il y a des choses où il va falloir attendre. C'est pas que Dieu va nous rejeter, mais il va falloir passer du temps. Et Dieu va nous tenir. parce que nous sommes ses fils et ses filles, parce qu'il veut que nous soyons, comme nous avons répondu lorsque nous avons confessé ton nom, que nous sommes devenus des enfants de Dieu, que nous sommes devenus maintenant la famille de Dieu. Il ne va pas nous laisser passer. Et moi, je dis qu'il y a eu des vies qui ont été gâchées, qui ont commencé, qui ont bien commencé, et qui vont errer pendant un certain temps, peut-être qu'au dernier moment, avant de rendre le dernier soupir, ils se souviendront, et là... Moi, j'en ai vu des gens, parce que j'ai assisté des gens à leur disparition, à leur mort. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'à ce moment-là, ils vont se repentir. Mais qu'est-ce qu'ils auront fait pour le Seigneur? Ils auront gâché, non pas son appel, mais les dons que Dieu leur a donnés. Toute leur vie, ils vont passer à errer d'une manière ou d'une autre. Vous savez, il faut être sérieux. Il faut faire attention à tout ça. Et c'est pas pour vous faire peur, au contraire. C'est pour vous encourager à faire, finalement, rester fidèle au Seigneur. Je finis. La défaite dans cette situation où ils ont voulu forcer les choses avait pour cause que l'occasion était bel et bien manquée. Oui, il y a des opportunités où véritablement on nous dit « c'est le moment ». Vas-y, vas-y, prends ta décision et marche avec moi. Moi, je t'ai préparé les choses. Alors vas-y, fais confiance, tout simplement. Je terminerai par quelques leçons de conduite par la foi. D'abord, le temps est par excellence le temps présent, c'est-à-dire maintenant. Hier, vous ne saviez pas de quoi nous allions parler. Demain, vous saurez de quoi nous avons parlé aujourd'hui. Et s'il y a un appel aujourd'hui pour quelqu'un d'une manière ou d'une autre, eh bien le Seigneur nous dit, c'est maintenant. Eh oui, c'est maintenant, je t'ai parlé. Fais confiance. Mes pensées et ma parole est bienveillante à ton égard. Parce que tu ne sais pas ce que ça va être demain. Tu ne connais pas ton avenir, c'est pour tous les hommes pareil. C'est maintenant. Le temps de la grâce est celui de Dieu. Nous devons nous le dire et nous le répéter. C'est le temps de Dieu et de sa bénédiction. Dire demain, je. Eh bien ça, c'est une illusion. Vous savez ce que vous allez faire demain? Moi, je vais me réveiller. J'espère. Eh oui, vous avez raison de me le rappeler. Et puis après, je vais reprendre ma vie de labeur de retraité. Parce que je travaille. Hein. Ah, c'est un clin d'œil. Hein. Ouais. Nul ne sait si demain nous appartiendra. Et il y a cette belle parole dans Proverbes, et je voudrais, à titre tout simplement de souvenir, il est dit dans Proverbes, chapitre tout simplement 27 et verset 1, « Ne te vante pas du lendemain. » Nous ferons ceci, nous ferons cela, etc., etc. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Eh oui, il y a des bouleversements. Il y a quelquefois des retournements de situation. Il y a ceci, cela, où nous attendons, en effet, certaines choses, et des choses que nous n'avons pas prévues, le Seigneur va nous les donner. Comme ça, simplement, sans crispation, sans dépression, sans rien de, finalement, qui nous mette en tension, et nous allons les recevoir, et à ce moment-là, ça va changer et bouleverser notre vie. Moi, je crois toujours à la bénédiction de Dieu. Croyez qu'il y a quelque chose de préparé pour chacun d'entre nous. Ouais. Eh, eh. Je ne sais pas si je vous convainc, mais c'est pour vous encourager. Parce que ce que je dis, on l'a vécu aussi. Hein. Ce n'est pas seulement de la théorie. Hein. On l'a vécu. Nos plus tard peuvent devenir des trop tard. Et il y a aussi dans le livre des Hébreux, et là je pense que c'est tout à fait particulier, au Hébreux chapitre 4, verset 1er, « Ne craignons donc point. » De quoi avez-vous peur? Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, c'est maintenant, hein? Eh oui, Seigneur ne renie ni ses appels ni ses dons. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Mais il n'est pas trop tard. C'est maintenant que vous l'entendez, c'est lui qui vous appelle, il dit « Viens maintenant ». Voilà, lève-toi, crois. Et prends, saisis. L'impératif, c'est maintenant, je le rappelle, c'est maintenant que le Seigneur nous parle. On n'est pas condamné pour nos péchés, puisque Jésus nous les a pardonnés. C'est vrai? Est-ce que vous le croyez, ça? Parce que c'est la première marche de l'ascension. Le Seigneur, vous êtes repenti de vos péchés, mais il vous les a pardonnés, il est mort, il a donné sa vie pour vous. Donc, ce n'est pas parce que nous avons été condamnés pour nos péchés, mais sûrement à cause de nos négligences. à cause de nos défauts d'écoute, à cause de nos entêtements, à cause de nos idées propres. Nous voulons que les choses se fassent comme nous, nous l'avons pensé. Alors là, là vraiment, nous sommes sur un chemin de traverse. Hein. C'est en raison de nos incrédulités au regard de ses appels à croire en sa parole. Ouais. Alors moi, je ne sais pas si je fais office de... Tout simplement, je parle, tout simplement. Mais bon, moi, je ne me prends pas pour un prophète. Mais une chose qui est certaine, c'est que la parole passe tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si Dieu ne vous parle, cet après-midi, ce matin, eh bien, il faut l'écouter, tout simplement. Parce que nous avons à y obéir. Et la foi, l'expression de la foi, c'est obéir à sa parole. C'est comme ça que je peux dire. Parce que certains disent, j'ai la foi, mais ils n'obéissent pas. Alors, ça ne sert à rien. Mais obéir. Obéir à la voix de l'Esprit. Et le dernier verset que je voudrais vous citer, parce que je pense que c'est vraiment l'appel magistral que nous pouvons donner comme finalité à ce message, c'est dans Hébreux, chapitre 3, et il est dit ceci, tout simplement, au verset 7 et 8. Selon ce que dit l'Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs par aigreur, par amertume, pour peut-être toutes les choses que vous avez ratées. Il peut toujours y avoir un nouveau commencement. N'endurcissez pas vos cœurs. Peut-être que c'est la souffrance qui vous fait, qui vous donne de vous endurcir. En disant, oui, mais il y a ceci, il y a cela, j'ai tellement souffert, on m'a fait souffrir, etc. Non, non. Les souffrances, elles ont été prises à la croix du calvaire. Et à ce moment-là, eh bien, faut les remettre, tout simplement. N'endurcissez pas vos cœurs. Prenez garde, frères, nous dit, là, le livre des Hébreux, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous, c'est ce qu'on a fait ce matin, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour d'exaucement. Aujourd'hui, Dieu vous parle. Dieu me parle. Dieu veut nous donner vraiment sa bénédiction. Et il attend que vraiment nous tendions notre main pour recevoir. Et quelquefois, nous avons soit les mains dans les poches ou les mains derrière le dos. Alors non. Je suis prêt, Seigneur, à recevoir ce que tu veux, ce que toi, tu m'as préparé de bon. Et je crois que ce que tu as préparé, c'est bon pour moi. Et qu'ils ne s'endurcissent par la séduction du péché. Le péché, c'est véritablement l'entêtement. C'est la désobéissance. Non, je ne le ferai pas. Eh bien, vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Personne ne va vous obliger. Mais le problème, c'est que nous risquons de tourner dans un désert où il fait chaud, où il fait froid, dans un désert où il n'y a personne, où il n'y aura plus personne. Et ça, c'est quand même assez ennuyeux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mes frères et sœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez votre cœur. C'est entre vous et le Seigneur. Les autres frères, bon, ben voilà, nous avons chacun nos problèmes, etc., etc. Et personne ne va vous juger. Mais c'est à vous de vous juger devant le Seigneur en disant, Seigneur, peut-être que j'ai raté des occasions. Alors, ne ratez pas des occasions parce que Dieu a préparé quelque chose de bon. Voilà, nous allons prier quelques instants et demander à Dieu qu'il vous bénisse, mes frères et sœurs, parce qu'il veut voir l'Église avancer dans sa bénédiction. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Oui, Seigneur, je me considère comme un grand privilégié de t'avoir connu dans ma jeunesse. Et c'est vrai, Seigneur, que combien j'étais, en effet, Père éternel, à la fois à la recherche de la vie spirituelle, à la recherche de Jésus, et que d'un autre côté, je ne voulais pas lâcher, eh bien, la vie que j'avais toujours menée. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, tu m'as vaincu. Tu m'as mis, en effet, eh bien, les genoux à terre. Tu m'as donné, Père éternel, de comprendre qu'il y avait deux sortes de vie. Il y avait la vie avec Dieu et la vie sans Dieu. Moi, j'ai choisi ma vie avec toi. Et j'ai vu, en effet, Père éternel, le ciel s'ouvrir. J'ai vu la grâce descendre sur ma vie. Sur, en effet, Père éternel, tout ce qui était à la fois, eh bien, sensible à mon cœur. La vie sentimentale, la vie affective, la vie professionnelle, la vie dans le ministère. Tout cela... Eh bien, en effet, tu m'as donné, eh bien, de pouvoir comprendre que le choix que tu avais fait pour moi, comme tu fais le choix pour mon frère et ma sœur, c'est un bon choix par excellence. C'est le choix par excellence. Moi, je te demande de visiter ceux qui pleurent en ce moment. Ceux qui sont en train de se tourner, se retourner dans une prison avec des barreaux qui n'arrivent pas à limer. Ouais, Seigneur, donne-leur, Père éternel, de comprendre que c'est toi qui libères. Tu fais sortir de la prison les captifs. C'est toi, Père éternel, qui éclaire là où il y a des ténèbres. C'est toi qui donnes une année de grâce. Alors tu nous donnes du temps, ça c'est sûr. C'est pas seulement maintenant, c'est pas seulement aujourd'hui, mais une année de grâce. Et nous pouvons traduire une vie de grâce jusque dans l'éternité. Bénis mes frères et sœurs, console-les, bénis-les, et donne-leur de repartir de ce lieu, eh bien, plein de force et plein d'enthousiasme, parce que Jésus veut les bénir aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et gardez ces paroles, pas les miennes, la parole de Dieu, c'est important.